Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
On ne peut plus gérer les salariés d'aujourd'hui comme on gérait ceux des années précédentes. Cette phrase est en introduction d'un ouvrage paru sur le management heureux et performant par la méthode de Thomas Gordon dans les années 80. Thomas Gordon, psychologue américain, a été l'un des maîtres de la communication positive basée sur la psychologie humaniste et de nouvelles façons de concevoir les relations interpersonnelles, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel, avec ce principe, une approche gagnant-gagnant, appelée aussi résolution des conflits sans perdant. Alors, 40 ans après, cette notion de management bienveillant se diffuse comme un mantra. Elle remet en cause un modèle hiérarchique autoritaire qui ne passe plus. Certains réfutent cette injonction trop bisounours, mais la bienveillance ne veut pas dire absence d'autorité. Comment donc repenser aujourd'hui les relations de travail dans un environnement donné? Comment concevoir désormais le rôle et la place des managers? Que signifie être responsable? Autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir 4 invités ce matin. Il faut bien ça hein, pour parler de cette notion de management, en tout cas de la vie en entreprise. J'accueille tout d'abord Valérie Delaunay. Bonjour Valérie Delaunay.
Bonjour Sophie.
Bienvenue. Vous avez occupé le poste de DRH dans de grands groupes avant de fonder InnerWays, qui est un cabinet conseil qui accompagne les entreprises, en particulier les PME, petites et moyennes entreprises, dans leur évolution humaine, managériale et culturelle. Voilà. Auprès aussi des conseils d'administration, des dirigeants.
Oui, parce que pour toucher l'humain, il faut commencer par la tête. Alors, je m'occupe aussi des conseils d'administration.
Voilà. J'ai le plaisir également d'accueillir Philippe Rodet. Docteur. Bonjour. Philippe Rodet, docteur en médecine, médecin urgentiste, passionné par l'influence de la motivation sur le stress depuis plus de 20 ans. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, « Libérer du stress », un médecin urgentiste raconte en 2010, « 7 leviers de motivation », c'est à ça, c'était en 2011, puis « Le bonheur sans ordonnance » en 2015, et enfin, avec Yves Dejacques, « Le management bienveillant » aux éditions Erol. Tous les ouvrages qui sont parus aux éditions Erol, ça c'était en février 2017, puis vous avez un projet encore d'écriture prochainement. J'accueille Jean-Claude Delmas. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes, vous, le DRH du groupe France Casino.
Le DRH France du groupe Casino.
Voilà. Merci d'être là. Et puis, Albert-Alexis Galland. Merci.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur de la stratégie de l'agence Kaolin, qui a été fondée en 2013.
Absolument.
Voilà. Alors, ce management bienveillant, on a l'impression que c'est un beau mot de communication, Philippe Rodet.
Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un mot de communication. Si on repart sur la notion de bienveillance, pour l'ancrer un petit peu, on verra qu'elle remonte très loin, puisque Aristote, déjà, disait la bienveillance, c'est souhaiter le bien de l'autre. Thomas d'Aquin, par la suite, dira la bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Et on voit cette évolution. Je n'irai pas jusqu'à Emmanuel Kant qui parlait d'un devoir d'humanité, mais effectivement, c'est un acte volontaire, c'est un effort de comportement que l'on va faire pour le bien de l'autre.
Mais j'ai l'impression que, je citais Thomas Gordon en début d'émission, et il y a 40 ans, il disait déjà la même chose. Et on a l'impression que ça ne bouge pas tellement dans les entreprises. En tout cas, on a cette perception qu'on utilise des beaux mots, il y a des beaux mots, de la belle douceur, mais finalement, la réalité est bien plus sévère et bien plus violente que les mots.
Il y a plusieurs paramètres qui devraient accélérer les choses. On peut être tout à fait optimiste sur ce point. Tout d'abord, les jeunes générations sont très sensibles au sens. C'est le moment, vu le titre de l'émission, de l'aborder. Eh bien, je crois que maintenant, nos jeunes collaborateurs ne vont plus se satisfaire simplement d'exercer un métier. Ils auront besoin de comprendre à quoi ils servent, à quoi ils sont utiles.
Ça veut dire que c'est trop tard pour les générations qui sont au-dessus. C'est une petite plaisanterie, pardon.
Non, mais vous avez raison. Il y a certainement des hôtesses de caisse dans des hypermarchés, un domaine que Jean-Claude Delmas connaît bien, qui ont travaillé en se disant ben, finalement à quoi je sers à encaisser. Mm-hmm. Et puis on se rend compte que ces personnes, quand on échange avec elles, eh bien elles échangent avec une personne âgée qui vient tous les jours à la caisse. Et là, finalement, elle recrée du lien social. Le sens, c'est savoir complètement à quoi sert le métier. Et ça, je crois que plus que jamais, il y en a un grand besoin.
Effectivement, y compris et peut-être surtout dans les petites structures d'ailleurs, parce que Jean-Claude Delmas, le groupe Casino, a réfléchi depuis de nombreuses années à cette mise en place du management bienveillant et depuis 20 ans à une politique en faveur aussi de ses salariés. 75 000 salariés, 4 000 managers, c'est ça le groupe Casino aujourd'hui à peu près ?
Alors, le groupe Casino, c'est un groupe à dimension internationale,
groupe France, hein,
sur qui emploie 250 000 personnes dans le monde. Sur la France, c'est 70 000 salariés, effectivement. Et quand vous citez le chiffre de 4 000, c'est 4 000 managers formés à la démarche de management.
Formés à la démarche
de management bienveillant. Mm-hmm. Sur lequel je reviendrai peut-être.
Qu'est-ce qui a motivé à un moment donné cette démarche dans l'entreprise ?
Alors, il faut savoir, vous le disiez tout à l'heure, que le groupe Casino s'attache depuis de nombreuses années à cultiver un développement d'innovation sociale et de culture managériale assez fort. Le groupe Casino a 120 ans d'histoire, on va fêter nos 120 ans cette année. Et par expérience, on a souvent prouvé à l'interne que la motivation des équipes contribuait à la performance de l'entreprise. On est sur des métiers de service. Le docteur Philippe Rodet tout à l'heure parlait des hôtesses de caisse, mais ça dépasse le cadre des hôtesses de caisse. Nos bouchers, nos pâtissiers, nos vendeurs dans les rayons, nos managers qui sont en relation avec les clients sont les acteurs essentiels du fonctionnement de l'entreprise. Et il est donc important de les sensibiliser à ces sujets de relations humaines au sens large dans l'entreprise. Donc on avait mis en place une démarche de culture managériale qui est le fruit de cette histoire qu'on a étoffée
avec des valeurs fortes,
qu'on a étoffée avec cette démarche de management bienveillant. J'y reviendrai peut-être, qui nous permet d'abaisser globalement le niveau de stress pour développer la motivation des salariés.
Et ce stress, on en reparlera évidemment avec Philippe Rodet. Valérie Delaunay, est-ce que le cas du groupe Casino est un cas rare aujourd'hui dans l'entreprise ?
C'est certainement une entreprise assez exemplaire en la matière, de ce que j'ai pu en comprendre. Et je suis assez directe, donc je dis ce que je pense. Mais tous les salariés que j'ai croisés de cette entreprise le disent. Donc je pense qu'il y a un effort qui est en plus décalé par rapport au secteur, qui n'est pas un secteur où spontanément on parle beaucoup de bienveillance.
En tout cas, on en a une image extérieure assez dure.
Assez dure et elle l'est quand même. Hein. Elle l'est pour travailler avec des gens qui sont dans ce monde-là. Pour autant, il y a quand même beaucoup d'efforts, je crois, de dirigeants qui ont pris conscience de l'importance, en tout cas de la dimension managériale et de toute cette mode dont on parle beaucoup dans les ressources humaines. Alors, on parle de bienveillance, on parle de
risque. D'agent de bonheur aussi.
Oui, alors ça, c'est encore un truc assez, encore plus fumeux. Mais il y a quand même des termes qui, finalement, commencent peu à peu à impacter les entreprises. Pour certaines, ça reste au stade de la cosmétique. Et puis, la réalité est très décalée. Et pour d'autres, franchement, moi, je vois en tout cas des patrons de PME et d'ETI qui sont profondément ancrés dans cette posture de bienveillance, qui n'exclut pas d'autres choses dont on parlera certainement. Mais en tout cas, qui ont compris exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que si les salariés sont heureux, ou en tout cas sont satisfaits dans leur travail, sont motivés, forcément, il y a une répercussion à la fois d'image et de bénéfices pour l'entreprise à tout point de vue.
Mmh. Mais on verra que ça concerne toutes les strates de l'entreprise. Hein. Il ne suffit pas d'infuser cette notion de bienveillance dans l'entreprise. Il faut aussi, peut-être dans la notion de recrutement, dans la notion de formation des managers et des dirigeants, une bonne politique. Parce qu'on est nommé dirigeant, mais on ne le devient pas du jour au lendemain. Ou en tout cas, on ne l'est pas de fait. On ne naît pas dirigeant. Albert Alexis Galland. Est-ce que cette notion de bienveillance ne correspondrait pas à un retour à un certain paternalisme ?
On pourrait le penser, mais pas obligatoirement, parce que le paternalisme, c'est quand même une notion ancienne qui d'ailleurs avait ses vertus, hein, puisqu'elle portait en elle des vertus d'accompagnement, un certain affect aussi, et qui s'inscrivait dans une forme de management. Hein. Il y avait quand même l'idée derrière cela de performance finale.
Hein. En créant un certain climat de solidarité dans l'entreprise.
Voilà, il y avait ce climat de solidarité. On accompagnait à la limite, dans certains cas, le salarié de la naissance jusqu'au cimetière. Hein. C'était dans certaines... notamment dans des industries du Nord, par exemple, qui étaient exemplaires à ce sujet-là. Mais je pense que le paternalisme est mort de son propre cynisme, parce que y avait des vertus, puis il y avait quand même quelques défauts. Hein, voilà. Et je pense que la notion de bienveillance remplace de façon plus nuancer positivement cette notion de paternalité. D'abord, le chef d'entreprise ne peut pas être le père des salariés. En général, les salariés en ont déjà un papa, et une maman aussi. Donc, c'est un peu comme le père du régiment. Le colonel, non, n'a jamais été le père du régiment. C'était hiérarchiquement le numéro un. Voilà. Ça, c'est une chose. Par contre, je me méfie beaucoup de ces terminologies affectives, comme bienveillance, le bien vivre ensemble, etc., qui deviennent des éléments techniques de management. Ça ne peut fonctionner qu'à la condition que ça soit revisité dans la terminologie précisément, et de bien savoir à quoi ça correspond, pour ne pas tomber dans ces travers qu'a pu tomber le paternalisme, d'ailleurs. Et alors, je préfère au paternalisme, et c'est peut-être en ça que la bienveillance peut s'y rattacher, c'est le fraternalisme qui serait une façon de mieux définir la façon de vivre pendant 7 à 8 heures par jour ensemble pour un bien commun et redéfinir ce bien commun qui est la fonction même de l'entreprise.
Philippe Rodet.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il faut quelque chose qui nous dépasse. Il faut un bien commun et se mobiliser en faveur de ce bien commun. Vous me disiez tout à l'heure, mais finalement, on en parle depuis longtemps. Et je vous disais, je suis optimiste parce qu'on va avoir de plus en plus de recherches de sens. Mais il y a deux autres paramètres qui vont nous aider. C'est que dans notre pays, comme d'une manière générale dans de nombreux pays, le pourcentage de personnes qui sont victimes d'un niveau de stress important augmente. En 10 ans, on est passé de 40% de personnes qui se plaignaient d'être stressées à 61%. Et en parallèle...
Ce qui s'explique comment ? Pourquoi autant
de
maladies
sources, avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien avant, on envoyait un courrier, on attendait la réponse. Maintenant, on envoie un mail. Si une heure après, on n'a pas la réponse, on appelle la personne, tu l'as pas reçu ? Tout s'est accéléré.
On prenait la peine peut-être d'aller parler à son collaborateur.
Aussi. En plus, et maintenant, on a tendance à substituer tout cela. Donc, d'une part, les sources de stress ont augmenté et en plus, les facteurs de protection, la solidarité entre les personnes, les liens sociaux, toutes ces relations de qualité qu'on pouvait avoir et qui sont protectrices ont tendance à s'effondrer.
Valérie Delaunay, c'est le constat que vous faites aussi dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez. On a à la fois cette injonction quelque part du management bienveillant et qui est un bien pour l'entreprise, puisque on a vu que la performance individuelle aussi, quand un salarié est heureux dans son entreprise et est heureux de travailler, bon, ça participe évidemment au bénéfice de toute l'entreprise. Mais on a cette injonction à la fois d'un management bienveillant et en même temps ces relations qui se durcissent en tout cas et ces difficultés de gérer des nouvelles générations aussi qui arrivent. On ne sait pas trop comment faire. Donc il y a une situation est un peu floue.
Je pense qu'il y a une diversité quand même de situations. C'est assez difficile de généraliser. De ma petite expérience de 25 ans, ce que je constate aujourd'hui, c'est quand même que dans les grandes entreprises, c'est assez compliqué de fonctionner parce qu'on est sous l'emprise de process, de tas de dates dont on ne comprend pas le sens, d'interactions plus ou moins claires, d'injonctions contradictoires, qui sont probablement plus marquées de ce que je constate. Et dans les petites entreprises, on n'a pas toujours des gens qui sont formés au management comme on aimerait, mais qui ont quand même des aptitudes qui se construisent avec le temps et parce qu'ils connaissent bien leurs équipes, parce qu'ils voient vite les résultats de ce qu'ils font. Où il y a quand même des actions, en tout cas, qui me semblent souvent plus authentiques. Voilà. Mais c'est difficile de généraliser. Je vois aussi des comportements qui sont encore totalement, pour moi, inadmissibles en 2018. Quoi. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une attention qui est plus soutenue. Les managers connaissent très bien leurs équipes, en général, et ils s'intéressent. C'est-à-dire que le béaba de la bienveillance ou du management... épanouissant, c'est quand même de dire bonjour, c'est de passer un petit peu de temps, c'est de prendre un café. Tout ça, dans les PME, on le voit, c'est naturel. Il m'arrive quand même de dire à des managers, est-ce que vous dites bonjour, parce que j'ai entendu que c'était pas toujours comme ça, est-ce que vous prenez un café? Donc j'ai un manager qui me dit, ah oui, dis donc,
vous intéressez à vos salariés?
Voilà, il a découvert qu'en prenant un café tous les jours avec sa secrétaire, elle travaillait mieux et puis en même temps, il récoltait plein d'infos sur la boîte. Je lui dis, vous voyez, ce n'est pas forcément des grandes choses non plus, le management bienveillant. Mais je vois aussi des patrons qui sont époustouflants en termes d'investissement pour leurs salariés et qui partagent. Alors parce que, bon, c'est bien les postures d'attention. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, en tout cas chez mes clients, c'est que ça va jusque à des dimensions très financières, c'est-à-dire de partage complètement de la valeur de l'entreprise et de se dire, si je crée autant de valeur, c'est pas parce que je suis seule, mais c'est parce que j'ai X salariés. Et donc, j'ai un devoir. Et là, on rentre dans une vraie dimension sociétale de l'entreprise qui va jusqu'à l'ouverture au capital de façon marquée. Et là, je trouve qu'on a un alignement complet des choses. Ce qui n'empêche pas l'exigence. Hein, parce qu'il faut qu'on parle d'exigence. On n'est pas dans un monde non plus non-profit. Donc il faut des résultats. Voilà, il faut des résultats.
On se retrouve tout de suite après cette première pause. N'hésitez pas à réagir en 01 56 56 44 00. Pardon, je rajoute. Si vous avez envie de partager ce que vous vivez, vous, peut-être dans votre prise, ce que vous souhaiteriez. Allez, on se retrouve tout de suite. Restez bien avec nous.
En quête de sens, 01 56 56 44 00. Que faire après le bac ? Vous cherchez une formation post-bac humaine et intellectuelle solide qui ouvre à des métiers variés ? Venez découvrir nos licences de philosophie et de psychologie le samedi 27 janvier de 14h à 17h à la journée portes ouvertes de l'IPC, Faculté libre de philosophie et de psychologie, au 70 avenue d'Enfer Auchereau, Paris 14e. Renseignements au 01 43 35 38 50 ou sur www.ipc-paris.fr.
Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection. La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets.
Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible ?
Ok, mais pour quoi faire ?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot, tous les dimanches à 9h30, sur Radio Notre-Dame. En quête de sens, Sophie Noailles.
Et ils sont quatre aujourd'hui, Philippe Rodet, Albert-Alexis Galland, Valérie Launay, Jean-Claude Delmas, pour essayer de nous faire avancer sur cette notion de management bienveillant. On le disait en début de cette émission, hein, le groupe Casino a misé sur le management bienveillant. Le groupe de distribution forme ses managers au comportement empathique. Jean-Claude Delmas, ça veut dire quoi ? Alors, former ses managers au comportement empathique.
Alors, il faut se méfier un petit peu de la terminologie.
La terminologie, effectivement.
Dans les débats précédents, et c'est vrai qu'effectivement, on parle chez nous de management bienveillant, pour être concret, plutôt que de bienveillance au sens large, puisque la vocation de l'entreprise, c'est aussi de performer, de servir ses clients, de faire du résultat. Donc pour cela, il est nécessaire d'accompagner ses collaborateurs au mieux, parce qu'on pense que les collaborateurs qui sont dans un bon état d'esprit ont une certaine motivation et contribuent à la performance de l'entreprise. Alors, cette démarche de management bienveillant, je disais tout à l'heure, permet de structurer une démarche autour de 8 leviers précis de la relation, sur lequel on évalue nos collaborateurs, sur lequel on fait des formations, qu'on inscrit dans notre système pour détecter des candidats, pour faire évoluer des candidats à l'intérieur de l'entreprise, qui permet d'avoir des comportements, je le disais tout à l'heure, qui diminuent le stress des candidats. On a eu un petit débat sur le stress tout à l'heure, mais le stress, il est multiple, hein, il est aussi bien à l'interne qu'à l'externe, avec de multiples raisons. L'important pour nous, c'est que nos managers, d'une manière générale, aient une attitude construite autour de ces 8 leviers qui permet d'abaisser à la fois le niveau de stress, donc de développer la motivation des collaborateurs.
Alors, quels sont ces 8 leviers ?
Ces 8 leviers que l'on a mis en place autour de la démarche de management bienveillant sont issus du travail qu'on a fait en collaboration d'ailleurs avec le docteur Philippe Rodet, qu'il a beaucoup expérimenté dans sa vie professionnelle, mais je laisserai intervenir là-dessus, qui sont de sens. On en parlait tout à l'heure, c'est très important. J'ai lu une enquête récente auprès de collaborateurs de différents âges que c'est le premier facteur qu'attendent les collaborateurs, donner, avoir du sens dans leur action. J'ai, dans l'Observatoire de la parentalité, il y a une enquête qui est sortie que 7 collaborateurs sur 10 attendent d'avoir du sens. C'est le premier facteur qui occasionne du stress. Fixer des objectifs au bon niveau, c'est-à-dire que les gens doivent savoir sur quoi ils sont attendus. Cultiver la liberté d'action. On est dans un univers professionnel aujourd'hui où toutes les directives tombent, on demande d'appliquer, etc. Mais il y a plein de territoires d'action. Le docteur
Philippe Rodet, favoriser l'autonomie des collaborateurs.
On peut, à tous les niveaux, une hôtesse de caisse, elle a aussi sa liberté d'action dans sa relation au client. On n'encadre pas, on ne lui dit pas exactement « tu dois faire ça de telle façon ». Et un manager qui gère une activité, c'est la même chose. Oser la gratitude, c'est-à-dire dire merci, on oublie beaucoup ça, et on le voit aussi au travers de la communication qui se fait beaucoup par des systèmes informatiques, alors les mails qui ne sont pas suffisamment bien polis, on va dire comme ça.
Qui sont parfois très directs. Très secs.
Ouais. Prodiguer des encouragements, je pense que ça c'est naturel, chacun a besoin à la fois d'être reconnu sur ce qu'il fait et aussi de pouvoir bénéficier d'encouragements. D'entretenir un sentiment d'équité, ça c'est quelque chose qui est très important dans les organisations. C'est pas que de l'équité salariale, c'est de l'équité sur bien, beaucoup de sujets. Et on voit beaucoup de demandes aujourd'hui dans l'entreprise sur les notions d'horaire, d'aménagement, d'équilibre vie privée, vie professionnelle. De reconnaître ses erreurs quand on est manager. Ça peut arriver de se tromper, c'est normal d'essayer, c'est normal de faire des erreurs parfois. C'est le reconnaître auprès de ses équipes. Et enfin, de cultiver l'optimisme. Puisqu'on est hélas dans une société qui est assez morose, que ce soit dans tout ce qu'on entend sur les débats politiques, médiatiques, ou même à la fois dans les relations entre les personnes. Les personnes ont souvent tendance à parler de ce qui ne va pas. C'est d'essayer de cultiver l'optimisme de manière à baisser ces niveaux de stress, comme je le disais tout à l'heure, et développer la motivation des collaborateurs.
Philippe Rodet, ça correspond en fait aux dimensions fondamentales du bien-être au travail.
Oui, tout à fait. On se rend compte que finalement, si on diminue un petit peu le stress, si on augmente la motivation, je vous disais tout à l'heure pourquoi ça va évoluer, je vous disais parce que le stress augmente, mais c'est aussi en parallèle parce que la motivation baisse. Le pourcentage de collaborateurs très engagés dans notre pays en 10 ans est passé de 42 à 28%. On a un véritable problème avec le désir de bien faire, le désir de réussir, le désir de se dépasser.
Et on voit dans les derniers sondages qui sont parus que très peu de salariés veulent devenir cadres responsables d'ailleurs.
Tout à fait. Cela va dans le même sens. Et donc, on va être obligé de diminuer le stress, on va être obligé d'améliorer la motivation. Et on sait d'ores et déjà que si on améliore la motivation, on va diminuer les effets du stress. L'intérêt des travaux qui ont été menés actuellement, c'est qu'on sait pourquoi certains leviers. Tout à l'heure, Jean-Claude Delmas parlait des encouragements. On sait pourquoi quand on encourage... Et de la gratitude. Eh bien, si on revient une demi-seconde sur les encouragements, on sait à l'heure actuelle pourquoi, quand on encourage un collaborateur, on va baisser son niveau de stress de 32% si c'est un homme, de 44% si c'est une dame. Donc, mesdames, vous avez beaucoup plus de chance que nous. Eh bien, on sait pourquoi. On sait par quel biais cela passe, c'est qu'on va modifier l'expression d'un de nos gènes. Vous vous rendez compte, simplement,
c'est physiologique.
En encourageant un collaborateur, on fait baisser son niveau de stress et en même temps, on va augmenter la créativité, on va augmenter la persévérance, on ira bien chercher des résultats.
Valérie Delaunay.
Alors là, je souscris à 100%. Hier, je voyais un jeune comptable, 6 ans d'expérience dans une entreprise, qui a postulé à un poste de responsable de petite équipe. Et on lui a dit, non, tu n'as pas les diplômes pour avoir le poste. Et je me suis dit, non, est-ce que j'entends vraiment ce qu'il me dit ? En 2018,
c'est très français,
on dit ça dans une entreprise à un jeune comptable. Alors il m'a dit, du coup, j'ai fait des petites économies et puis je me paye ma formation tout seul. Je lui dis, vous n'avez pas demandé à l'entreprise ? Il me dit, non, je n'ai pas demandé à l'entreprise. Voilà. Et je me dis, voilà une entreprise qui fait quand même les choses à l'envers. Sa formation, elle coûte 2000 euros. Ce n'est pas grand-chose. On aurait pu lui dire, bon, on va t'encourager, te mettre sur un parcours diplômant. Effectivement, tu as un BTS, on aimerait que tu ailles plus loin, etc. Parce qu'il y a peut-être des notions techniques qu'il faudrait que tu aies. Et je voyais ce garçon totalement désabusé, en fait. Il me disait, ma motivation, finalement, je me projette pour une suite ailleurs que dans cette entreprise. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi un ouvrier qui avait eu un CQP. Je lui ai dit, il y a eu une prime après un CQP. C'est une qualification professionnelle. Bien sûr que non, il n'y avait pas eu une petite prime symbolique pour un ouvrier qui gagne le SMIC. d'avoir fait un effort aussi, après 20 ans, de retourner un peu sur le parti un peu banc d'école.
Les encouragements.
Je me dis, mais à quoi pensent de temps en temps les entreprises, au lieu de gâcher sur des choses stupides, de se dire, mais ça, c'est l'investissement. L'investissement sur les compétences, c'est majeur. C'est majeur en retour pour l'entreprise et en retour de motivation. Voilà. Je pense que c'est des exemples qui sont très parlants.
Albert-Alexis Galland.
Oui, je souscris également parce que je me méfie énormément des messieurs ou Madame Jourdain dans ce domaine-là qui font de la prose sans le savoir et qui font de la bienveillance sans le savoir. Je crois que ça ne peut passer dans le cadre de l'entrepreneurial que par un vrai process, comme vous l'avez expliqué, Monsieur Delmas, parce que sinon, c'est comme ça. C'est un jour, ça, on va faire de la bienveillance, puis le lendemain, parce qu'on sera mal luné ou de mauvaise humeur ou on sera engueulé avec son épouse ou son époux, ça ira moins bien. Donc, on va changer la forme managériale. C'est pas possible autrement. Il faut vraiment fixer des règles. Même si, au départ, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, la bienveillance, avec la gentillesse, quoi. C'est une démarche proactive. C'est-à-dire qu'on se dit, ça doit intégrer le règlement intérieur de l'entreprise. Il faut même le partager avec les gens. Je voudrais juste citer un exemple personnel. Moi, j'étais chef d'entreprise, donc j'essayais... peu ou prou de vivre un management bienveillant. Je distribuais des primes de temps en temps, j'encourageais. J'avais quand même appris de l'ancien entraîneur de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo, avec qui j'avais travaillé, qu'il fallait toujours dire, même si l'équipe avait perdu, bravo et merci. Puis après, on pouvait faire des remarques. Hein. Mais on commençait déjà par ça, parce qu'il s'était quand même donné du mal. Hein. Dans l'entreprise Kaolin, donc dont je suis le directeur de stratégie, j'étais très surpris quand on a déménagé. Le président a voulu que l'endroit le plus important à choisir au départ, ce soit la salle à manger. Parce qu'il avait institué que les gens pouvaient manger tous ensemble, quel que soit leur niveau hiérarchique. Hein. Et ça change bien des choses. Que la minute de la machine à café était transformée par un déjeuner où on partageait. Bon, ce n'est pas du copinage.
Ça veut dire que la convivialité ne va pas de soi. Il faut créer un environnement propice à cette convivialité.
Oui, parce que c'est normal qu'elle n'aille pas de soi. Parce qu'il y a des gens à qui on a une tête qui revient, puis d'autres pas. On a ses humeurs, on a ses choses. Et ce moment de déjeuner, de partage du repas, ça peut être un moment où justement le temps permet à assouplir un peu les choses. Alors, ça ne doit pas se limiter à ça.
Jean-Claude Delmas, pour rebondir sur les propos d'Albert-Alexis Galland, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, on met en place et on entretient une vraie culture d'entreprise ?
Alors oui, je le disais tout à l'heure mes propos d'introduction. Oui, et puis je pense que c'est nécessaire, on vient de le dire, d'avoir une démarche assez structurée pour entretenir cette culture d'entreprise. Parce qu'effectivement, derrière la bienveillance, on pourrait dire beaucoup de choses. On l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce débat. C'est un mot qui est extrêmement large, qui peut avoir une signification très large. Il est important de le ramener au fonctionnement de l'entreprise et à ce qu'on attend en termes de relations humaines à l'intérieur de l'entreprise, je disais tout à l'heure. Et le pourquoi des choses aussi. Quel est le but de l'entreprise. Effectivement, on essaye d'inclure ça chez nous, dans toutes les entités du groupe Casino, dans notre dispositif de culture managériale, tant sur les principes, les objectifs précis, les 8 leviers de motivation que je citais tout à l'heure, sur l'évaluation des membres d'encadrement dans l'entreprise. Et on va mettre en place d'ailleurs une charte définie par le COMEX de l'entreprise, qui va être décliné dans toute l'entreprise, parce qu'il faut penser que c'est un peu comme ça que ça fonctionne quand même. C'est à tous les niveaux qu'on doit interagir sur ces démarches-là. On a dans des entreprises des services financiers qui ont souvent des préoccupations qui sont complètement différentes que la relation managériale. Eux, ils sont dans leur gestion financière au quotidien et ils ont des actions qui se produisent dans toutes les strates de l'entreprise. Donc ces personnes-là aussi doivent être formées. Donc le COMEX, tous les services centraux et ensuite tous les managers avec un accompagnement bien précis. Et effectivement, pour répondre un peu plus précisément à votre question, on met en place des formations auprès de tous nos managers. Il y en a un peu plus de 4000 aujourd'hui qui ont été formés dans tous les niveaux de l'entreprise qui nous permettent d'entretenir ça au quotidien. C'est des tables rondes. On a créé aussi des partenariats avec des organisations syndicales, enfin des partenariats, des groupes de travail avec des organisations syndicales. On a mis en place des comités de suivi de la démarche pour savoir comment elle s'implémente, comment elle se diffuse. Donc on a traduit ça en comportement concret à l'intérieur de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un responsable aujourd'hui, Valérie Delaunay ? Qu'est-ce qu'un dirigeant, un manager ? Parce que je le disais tout à l'heure, le statut de dirigeant ne fait pas de nous, ne fait pas de vous un dirigeant.
Non, c'est difficile d'être dirigeant. Je crois que c'est vraiment... c'est quelqu'un de seul. C'est quelqu'un qui doit insuffler à l'entreprise à la fois la direction sur le plan business, ce qui est très compliqué quand même aujourd'hui, hein, d'avoir une vision... je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, c'est très compliqué.
C'est une très grosse difficulté.
C'est un exercice très, très difficile sur lequel l'attendent tous les salariés quand même. Ils attendent d'abord, enfin, beaucoup une direction de voilà, business. Et puis c'est quelqu'un qui a, comme on dit, qui a du leadership, c'est-à-dire qui donne envie de s'investir dans
leadership
l'entreprise.
Et manager.
Oui, alors le responsable, vous me dites le dirigeant. Donc le dirigeant, il doit quand même donner envie de venir le matin, donner envie d'échanger avec lui, de venir lui proposer des choses, des choses décalées, des choses innovantes, de lui dire ce qui se passe sur le terrain. C'est ça aussi un dirigeant. Hein, il doit avoir une vision à la fois stratégique et puis être en proximité avec... n'importe quel salarié, ce qui est pas facile, honnêtement. C'est très compliqué. Donc, il doit veiller à ce que l'entreprise, dans sa globalité, fonctionne de la façon la plus harmonieuse possible. Il y a aussi toutes les interactions entre les services. Hein, parce qu'être manager sur votre périmètre, avec votre équipe, la bienveillance, elle est pas facile, mais... Bon, elle est accessible, mais la bienveillance avec les interactions, quand vous avez des frottements, parce que le service n'a pas fait ce que vous attendiez, les délais, etc. Donc, ça casse, enfin, ça pète. C'est pas simple hein, d'avoir une bienveillance aussi latérale, entre guillemets, si je puis dire. Et puis, ascendante aussi, parce que les managers ne sont pas toujours non plus... forcément bien traités par leurs équipes, hein, qui peuvent être dures. Il ne faut pas croire que c'est que descendant. Enfin, je pense que c'est vraiment un 360 aussi. Et puis, il y a ce que les clients...
Les strates intermédiaires sont souvent les plus compliquées, quelque part, celles qui souffrent le plus, finalement.
Ah
aussi.
Oui, ça, je l'ai déjà dit sur votre radio, le management intermédiaire, c'est extrêmement, extrêmement dur. Il est en tension entre tout le monde, son équipe, la direction, les autres directions et les clients. Enfin, l'exigence client, où est la bienveillance chez les clients à l'égard des salariés ? C'est quand même impressionnant de voir comment les gens se comportent aujourd'hui. Est-ce qu'on dit bonjour quand on arrive dans une entreprise, chez un commerçant, dans une grande surface ? Est-ce qu'on dit bonjour à vos hôtesses, par exemple, de caisse ? La plupart du temps, si vous faites attention...
On parlait de la gratitude, ça vient de là aussi. Hein.
Moi, j'aimerais aussi que les clients se mettent dans cette posture, en fait. Oui.
On réfléchit d'ailleurs chez nous, je m'excuse d'intervenir, mais la manière dont on pourrait relayer tout ça auprès des clients, on est confronté, puisqu'on est des magasins ouverts sur le public, à une recrudescence d'incivilité, par exemple,
de comportement. Une violence de la part des consommateurs, des clients.
On a beaucoup de demandes là-dessus. Ouais.
Philippe Rodet.
Ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure, Valérie, de verticalité, d'horizontalité. Et je trouve que la bienveillance, c'est qu'elle peut exister effectivement dans ces deux directions. Et elle peut exister dans ces deux directions, on parlait des clients. Il y a, parce que dans l'entreprise, ce sera peut-être plus vertical, mais il y a des territoires maintenant qui s'intéressent à la bienveillance. Il y a une station de sport d'hiver, Val Thorens pour ne pas la citer, qui dit si on forme...
Vous êtes intervenu il y a peu de temps d'ailleurs. Hein,
vous savez tout, je ne peux plus rien vous cacher. Dans cette station, ils partent du principe que s'ils forment leur manager à des comportements bienveillants, les collaborateurs se comporteront différemment vis-à-vis des clients et il y aura un attrait. Eh bien, effectivement, et là, je vais faire plaisir à Jean-Claude Delvas, c'est Geoffroy Guichard, le fondateur du groupe, qui, au début du XXe siècle, disait la bienveillance, un pouvoir d'attraction considérable. Si on est bienveillant, y compris vis-à-vis de nos clients, on aura un pouvoir d'attraction. Et ça, dans l'entreprise, ce n'est pas négligeable.
Albert-Alexis Galland.
Oui, je rebondissais sur ce que disait Valérie à l'instant. On disait tout à l'heure qu'il fallait des process, hein, c'est-à-dire vraiment institutionnaliser la chose, hein, cette démarche, puisqu'il s'agit d'une démarche dynamique. Hein,
et de ça la veut même dire façon, que dans l'entreprise, par exemple, on ne va pas nommer n'importe quel manager, on ne va pas nommer n'importe quel responsable. Il y a aussi cette réflexion à faire sur les compétences, peut-être. Valérie, vous réagissez. Mais
quand même, c'est pas toujours la dimension managériale qui prime dans les choix des managers. Faut être honnête. On aimerait, mais non.
Alors qu'en musique, par exemple, moi, j'apparente ça. Alors, faut prendre ça quand même pas au premier degré, mais au deuxième degré. C'est le conducteur d'orchestre. Je veux pas dire chef d'orchestre parce qu'il y a la notion de chef. Hein. Le conducteur. Moi, j'ai le souvenir d'une intervention au forum de Davos du chef d'orchestre du Philharmonique de New York, qui était venu expliquer aux grands de ce monde que c'était très difficile leur métier, mais qui comprenait parce que lui, il avait le même problème. Il dirigeait des gens qui avaient les mêmes diplômes qu'eux. Ils étaient tous les musiciens du Philharmonique étaient premier prix du conservatoire, comme lui. Voilà. Sauf qu'il avait été choisi pour avoir comme instrument cette fameuse baguette en bois, hein, et que c'est lui qui allait donner le là, simplement. Voilà. Et c'est un peu ça, le manager. Il est ni plus intelligent, ni moins intelligent que les autres. Par contre, on lui a donné cette fonction de donner le là et de mettre en application la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire ce qu'on a couché sur papier, avec les possibilités même de faire de la navigation à vue de temps en temps, parce que les choses conjoncturelles existent et les contextes existent. Et puis, alors, on parlait de process, il y a des codes. Les codes, tout à l'heure, quand on est rentré, la première chose, on a croisé un journaliste, M. Rodé, qui nous a proposé un café. Voilà. Mais ça, c'est un code. Les habitants des îles Trobriand,
qui se trouvent dans quel endroit?
Alors, en Nouvelle-Guinée, là, c'est une allusion ethnologique, n'ont jamais connu la guerre. Pour quelle raison? Je vais être très court. C'est parce que ils avaient vu de loin, dans une autre île, les gens s'entretuer. Ils avaient trouvé ça absolument horrible. Les viols, le sang, la violence. Hein, et ils se sont dit, non, chez nous, il ne faut jamais qu'il y ait ça. Et ils ont décidé d'établir un code. À chaque fois qu'ils se croisent, au lieu de se dire simplement bonjour en Trobriandais, hein, les habitants des îles Trobriand, eh bien, ils se donnent quelque chose. Alors, ils ramassent une pierre, une feuille, une fleur, et ils se la donnent. C'est le geste comme quoi, de toute façon, il n'y aura pas de place à la guerre. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, il ne s'agit pas de se donner, d'aller jusque-là au sein de l'entreprise, mais ces codes de dire bonjour, de tenir les portes, etc., je pense qu'il faut rappeler ces fondamentaux-là. Mmh. C'est important.
On le disait tout à l'heure, hein, et dire merci. Allez, on réfléchit à tout ça. On se retrouve juste après, cette fois-ci, une pause musicale.
Radio Notre-Dame.
Se voir, apprenons à regarder ensemble sans tarder.
Sinclair, ensemble dans Quête de sens pour parler du management dit bienveillant. Aujourd'hui avec Valérie Delaunay, Dr Philippe Rodet, Albert Alexis Galland et Jean-Claude Delmas, un des RH du groupe France Casino. Le groupe Casino qui a mis en place ce management bienveillant en tout cas et qui forme ses managers et qui les évalue là-dessus aussi, Jean-Claude Delmas. Il y a une évaluation sur cette mise en place du management bienveillant, sur cette façon d'être en entreprise.
Oui, je pense qu'il est important d'avoir une démarche structurée et derrière d'évaluer la manière dont les gens mettent en œuvre cette démarche structurée. Au sein du groupe Casino, on a pour les managers un système de rémunération variable indexé sur des critères. On attache autant d'importance à la réalisation d'objectifs quantitatifs que d'objectifs qualitatifs qui sont évalués sur la manière d'être dans l'entreprise. On privilégie autant le savoir-être pour réaliser les différents objectifs que la réalisation elle-même des objectifs.
Et à tous les niveaux hiérarchiques.
À tous les niveaux hiérarchiques. Et c'est à peu près 50% de l'évaluation est basée sur ces comportements.
Philippe Rodet, ce management bienveillant, est-ce qu'il a cassé les codes de la hiérarchie, justement, dans les entreprises ?
Je ne crois pas qu'il soit là pour casser les codes. Il est là pour exiger peut-être un effort de comportement. Car être bienveillant, c'est un effort que l'on fait en permanence. On le voit soi-même quand on s'adresse à des collaborateurs. Eh bien, c'est un effort que l'on fait. Et c'est pour cela que c'est difficile. En revanche, je pense que ça devient impossible de ne plus se comporter de la sorte à l'heure actuelle. Parce que sinon, on aura un niveau de stress qui va augmenter, on aura un niveau de motivation qui va s'effondrer, on aura des gens qui seront en mauvaise santé, qui vont s'absenter.
Un mal-être au travail,
et on n'aura plus d'envie. On a cette crise de l'envie. Il faut vraiment tout faire pour que, de nouveau, l'ensemble des personnes retrouvent finalement peut-être ce qu'il y a de plus beau au fond de l'être humain, c'est l'envie de se dépasser, l'envie de faire une œuvre de sa vie.
Valérie Delaunay, on remarque souvent dans les entreprises que le malaise vient aussi d'un manque de cadre, quelque part, de savoir qui fait quoi et qui a telle ou telle mission. Quand les missions et les cadres sont mal définis, le malaise commence à rentrer dans l'environnement de l'entreprise.
Oui, moi je prône toujours les rôles et responsabilités en fait, à la fois des services et des personnes. Et c'est finalement un sujet clé que les entreprises adressent assez peu, parce que ça paraît une évidence. Donc on est dans l'implicite, or il faut de l'explicite
On estime qu'on sait.
Oui, voilà. Oui. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, docteur. L'envie de se dépasser comme élément de motivation, oui. Mais on est sur Radio Notre-Dame. Alors moi, j'ai aussi envie quand même de dire que, au-delà de la bienveillance, c'est aussi de retrouver une humanité, en fait, dans l'entreprise. Et on est quand même dans un monde qui est assez loin de ça. Mais finalement, il appartient à chacun de nous de remettre de l'humanité dans son quotidien, dans ses relations avec les gens qu'on croise. Je suis frappée par la force du sourire, par exemple, dans la rue, quand tout à coup on sourit à quelqu'un juste parce qu'on le croise, et ce que ça déclenche. Et du coup, de faire ça dans l'entreprise aussi, c'est assez puissant, en fait, de se dire... Moi, j'aime bien ce que vous dites sur l'enthousiasme. C'est vrai que des managers qui arrivent avec de l'enthousiasme, du sourire, forcément, ça a un impact... au quotidien de long terme parce qu'on a besoin d'avoir un manager qui croit de façon raisonnée mais voilà qui apporte ça et je trouve que en plus il peut y avoir du sourire et une dimension humaine voire spirituelle
et ça donne de la crédibilité à l'encadrement aussi
l'humanité
oui
oui moi je pense que enfin je crois pardon que les dirigeants qui lâchent de temps en temps cette dimension profondément humaine font un saut considérable en termes de crédibilité auprès de leurs équipes. Vraiment. Ouais. Avec authenticité, parce que, évidemment, aujourd'hui, toute la marque employeur, tout ça, il y a des tas de choses totalement fumeuses qui sont comme je disais, dans la cosmétique. Mais les gens ne sont pas dupes, en fait. Ils sentent très bien quand la personne est authentique, authentiquement humaine. Et qu'elles s'intéressent à ce qu'ils sont comme personnes. Voilà, je crois que c'est essentiel. Parce que, évidemment, ils contribuent à la valeur de l'entreprise. Mais quand on se retrouve dans une dimension humaine, et c'est ça que je trouve intéressant dans les moments de convivialité, parce que souvent la hiérarchie est très atténuée dans la convivialité, on essaye de faire tomber un peu les uniformes et les galons. À ce moment-là, les gens se découvrent avec leur vie semblable. Et là, ils se disent « Ah, mais tiens, il est un peu comme nous ». Et du coup, cette proximité crée aussi de la confiance, de forme d'estime, de respect. Enfin, il y a tout ça au-delà de la bienveillance.
Albert-Alexis Galland, oui. C'est aussi une question de confiance. Alors, avoir confiance dans ses collaborateurs et que ses collaborateurs aient confiance dans le manager ou le dirigeant.
Ah oui, je pense que ça joue un rôle majeur. Mais effectivement, parce que Valérie venait de parler de l'aspect chrétien, par exemple. Hein, mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis devenu chrétien adulte. C'est une conversion d'adulte. Hein, mais ce qui m'a fait devenir chrétien, pas de lapsus lingué. Si on schématise, c'est tout homme et mon frère. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce principe-là.
Oui, mais Albert-Alexis Galland, et je vais peut-être en fâcher quelques-uns, mais c'est parfois dans des petites structures qui se disent chrétiennes qu'on vit les pires choses.
Ah mais absolument, ce n'est pas une garantie. Ça devrait être de toute façon au moins le premier pas de la démarche, quoi. Le premier pas de la démarche de bienveillance, c'est important. Vous parliez d'enthousiasme tout à l'heure du chef d'entreprise. Enthousiasme, ça vient de entheos, c'est-à-dire avoir Dieu en soi. Bon, bah, normalement, c'est ça, la visibilité.
On parlait tout à l'heure du paternalisme. Vous aussi, vous parlez du fraternalisme, on en a parlé.
Bah oui, c'est
la confiance aussi dans l'entreprise.
Oui, puis ça, c'est partageable. Avec tout le monde. Hein. Celui qui croit au ciel comme celui qui n'y croit pas. C'est-à-dire que là, on peut tous se réunir autour de ça. Je crois que c'est cette notion de partage, d'objectif. Monsieur Delmas, vous le disiez tout à l'heure, c'est important d'avoir inscrit... Faut pas obérer le fait qu'on a des objectifs. Faut gagner des parts de marché, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Et bien au contraire.
Jean-Claude Delmas, vous qui êtes donc directeur des ressources humaines, on parle de bienveillance, on parle de confiance, on parle d'humanité, mais ça n'empêche pas l'autorité.
Ah non, ça n'empêche pas l'autorité. Je pense qu'on pourrait faire un pendant avec les propos qui viennent d'être tenus. Je pense qu'un manager qui a le respect de la personne, qui a des attitudes positives, qui prend en considération les gens, tous les thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, il a même, je pense, une meilleure légitimité à imposer
des
objectifs et à être exigeant. C'est-à-dire, un salarié comprend plus facilement l'exigence venant de quelqu'un, d'un manager qui est humain, plutôt que de quelqu'un qui est complètement inhumain. On pourrait le traduire comme ça.
Philippe Rodet.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une dimension aussi, en tant que chrétien, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'optimisme. Et dans notre pays, on a un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. J'ai eu la chance, pendant 10 ans, de bien connaître Jacqueline de Romilly. Et c'est quelqu'un qui était, alors qu'elle ne voyait plus clair, alors que tout est difficile, quand on veut écrire des livres et qu'on ne voit plus clair, rien n'est simple. Elle avait 2 magnétophones. Sur un magnétophone, elle dictait un quart d'heure de texte. Au bout d'un quart d'heure, elle écoutait, elle mémorisait les corrections. Et sur un autre magnétophone, elle dictait le texte corrigé. Et parfois, le soir, avec la fatigue, elle se trompait de bouton, elle effaçait tout. Elle recommençait, le livre paraissait. Et un jour, je lui dis, mais comment faites-vous finalement pour continuer à avancer? Elle me dit, vous savez, quand c'est dur, quand c'est difficile, et c'est vrai dans tous les cas de la vie, l'optimisme, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. Eh bien, je crois que ce défi-là, c'est aussi un défi des chrétiens.
À relever tous ensemble.
Bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr.
Est-ce que c'est une utopie réaliste, Albert-Alexis Galland?
Oui, moi j'aime beaucoup cette expression d'utopie réalisme parce que c'est très proche de la vérité. L'utopie réaliste, c'est quand Hergé a écrit Tintin, on a marché sur la lune, on savait pas du tout que ça arriverait, hein. Et je pense que, mais on s'en fichait, c'était romanesque, c'était on rêvait, hein. Et puis en fin de compte, c'est arrivé. Et je crois que ce dont on parle actuellement, ça peut arriver si on l'intègre à une notion d'investissement. C'est de l'investissement managérial. Ça peut très bien ne pas immédiatement donner ses fruits dans les tout premiers temps de la conduite de l'entreprise. Par contre, c'est un bon investissement. Parce que la malveillance, ça, en général, on la paye très cher. Hein, et ça, on le sait qu'après. Hein. Donc ça, il faudrait que les dirigeants d'entreprise... Bon, je pense... Moi, j'ai passé une 20aine d'années aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bon... On apprend ça, le baba, c'est le respect de la dignité de l'homme. Il faut dépasser cette chose-là et aller vraiment, je parlais de proactivité, il faut être beaucoup plus entreprenant dans ce domaine-là.
Je crois effectivement que le respect, c'est ne pas nuire à l'autre. Et la bienveillance, c'est aller chercher le bien de l'autre. On est à une dimension encore plus puissante.
Tout à fait. Ce qui veut dire doser un petit peu. Parce que souvent, il y a une réserve, en fait. On croit que parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, il faut avoir, vous disiez des codes, mais des codes qui sont, excusez-moi messieurs, assez masculins. Donc, en fait, un peu issus de comportements guerriers. Hein, je caricature un tout petit peu.
Et déconnectés de l'humanité, voilà, comme on disait tout à l'heure.
Mais en fait, quand on ose la gentillesse avec de l'exigence, les salariés veulent de l'exigence. Ils aiment l'exigence, mais ils aiment la reconnaissance mais l'un va avec l'autre. Mais quand on ose la gentillesse, l'attention, on ne perd pas du tout en crédibilité. Au contraire, mais voilà, il faut un peu franchir le pas, parce que pour beaucoup d'hommes en particulier, même de femmes, hein, qui pensent que parce qu'il faut mettre un costume un peu particulier quand on dirige, non, en fait, on est tous gagnants. Voilà, c'est un peu une conversion intérieure, si on peut reprendre... mais de l'entreprise en général. C'est sûr que le corps managérial insuffle, et il a ce qu'on appelle un devoir d'exemplarité, ce qui est quand même assez, assez dur, je trouve. Mais c'est aussi aux équipes d'être bienveillantes avec leur manager. Parce que, comme vous disiez, il peut se tromper. S'il le reconnaît, voilà, on passe à autre chose. Hein.
Jean-Claude Delmas, vous en voyez les fruits au sein du groupe, justement, de cette mise en place, de cette démarche de management bienveillant?
Alors, il y a une vraie difficulté à le mesurer. Sur les échanges précédents, on parlait d'utopie réaliste. Oui, on voit quelques exemples, puisqu'on a mis un petit système d'auto-déclaratif. Mon niveau, je déclare mon niveau de stress sur une échelle de 1 à 10, je déclare mon niveau de motivation sur une échelle de 1 à 10. Et on voit des mesures qu'on avait faites sur certains services, sur certains établissements, on les voit un an après, on voit que ça s'améliore. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas s'attendre à un résultat du jour au lendemain. J'emploie beaucoup de termes-là dans l'entreprise. On s'inscrit sur un chemin de progrès, d'avancée, etc.
Voilà, mais le processus est lancé.
Le processus est lancé. Je pense qu'il faudra effectivement un jour qu'on ait quelques indicateurs un peu plus précis pour prouver quelque part, parce que c'est comme ça dans les entreprises, l'efficacité de la démarche. Mais ce que je voudrais, sur quoi je voudrais rebondir aussi, c'est que il n'y a pas que le management sur quoi il faut travailler. Je suis assez d'accord avec vous. On met en place aussi un petit système, on peut en reparler un autre jour, de bienveilleurs au sein des employés, qui permet de créer ce lien ou de
voir identifier les gens qui ne vont pas bien.
C'est et c'est un dispositif très important dans notre démarche aussi.
Le mot de la fin, Philippe Rodet.
Je crois qu'on a beaucoup parlé de bienveillance. Valérie Delaunay justement parlait d'exigence. Et bien, je crois que c'est en équilibrant la bienveillance et l'exigence qu'on ira chercher de l'excellence.
Albert, Alexis Galland, un mot?
Je pense que parce que l'homme est la capitale de toutes les contradictions, c'est important de structurer cette fameuse bienveillance pour que ça devienne quasiment de l'ordre du règlement intérieur, n'en déplaise aux fauteurs de troubles.
Valérie, 3 secondes.
Oser la bienveillance.
Voilà. Merci à tous les quatre de nous avoir donné ces pistes aujourd'hui sur le management.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.